Aujourd'hui, bonjour, je vais vous lire le supramental et l'humanité de la manifestation supramentale Sri Aurobindo, traduit de l'anglais par Mère. Mais le seul supramental possède intégralement la conscience de vérité, mais seul le supramental possède intégralement la conscience de vérité. Par conséquent, s'il descend et qu'il intervienne, le mental, la vie et le corps aussi peuvent parvenir au pouvoir intégral de la vérité qui est au fond d'eux-mêmes et à la possibilité de perfection intégrale. Sans doute tout cela ne se produirait-il pas tout de suite, mais un progrès évolutif dans ce sens pourrait s'amorcer et grandir d'une façon accélérée vers cette intégralité. Tous les hommes ne parviendraient peut-être pas à cette plénitude avant une époque lointaine, mais cependant, le mental humain pourrait finir par devenir parfait dans la lumière et une nouvelle humanité pourrait apparaître au sein d'un ordre nouveau. Tel et la possibilité que nous devons examiner. Si cette possibilité est destinée à s'accomplir, si l'homme n'est pas condamné à rester à jamais le vassal de l'ignorance, il faut croire que les capacités du mental humain soulignées ici ne sont pas telles qu'elles doivent nous habiter irrémédiablement et rester à jamais obligatoires. Le mental de l'homme pourrait façonner des moyens et des organes supérieurs, franchir les ultimes frontières de l'ignorance et entrer dans une connaissance plus haute. Devenir assez fort pour ne plus se laisser retenir en arrière par la nature animale. Nous verrions apparaître un mental libéré qui s'échapperait de l'ignorance et passerait dans la lumière. Un mental conscient de sa filiation avec le supramental. Un agent naturel du supramental qui serait capable de faire descendre l'influence supramentale dans les régions inférieures de l'être. Un créateur dans la lumière, un explorateur des profondeurs, un illuminateur de l'obscurité et qui servirait peut-être même à transpercer l'inconscient par les rayons d'une supraconscience secrète. Nous verrions apparaître un mental nouveau, non seulement capable de soutenir l'illumination du rayonnement supramental, mais capable aussi de grimper consciemment jusqu'à lui, en lui, d'acclimater la vie et le corps à refléter et à contenir un peu la lumière, le pouvoir et la béatitude supramentale. Un être qui aspirerait à délivrer la divinité secrète et l'amènerait à la découverte d'elle-même, à l'accomplissement d'elle-même, à la maîtrise d'elle-même, qui aspirait à s'élever à la conscience divine, serait capable de recevoir et de supporter la descente de la lumière et du pouvoir divin et se préparerait à devenir un réceptacle de la vie divine. Ce chapitre, Sri Aurobindo a donné une date, le 13 février 1950, le 13 janvier 1950. Il continue le chapitre 5 qui est le supramental dans l'évolution. Une humanité nouvelle consisterait donc en une race d'êtres mentaux sur la terre, dans un corps terrestre, mais suffisamment délivré de sa condition présente sous la tutelle de l'ignorance cosmique pour être en possession d'un mental devenu parfait, un mental de lumière, qui pourrait même être un fonctionnement subordonné du supramental, de la conscience de vérité, et qui jouirait en tout cas de toutes les facultés d'un mental faisant fonction de récepteur de la vérité, ou du moins fonction d'instrument secondaire de la vérité dans la pensée et dans la vie. Pardon. Il pourrait même faire partie de ce que nous appelons la vie divine sur terre, ou du moins partie des débuts d'une évolution dans la conscience au lieu d'une évolution entièrement ou principalement dans l'ignorance. Jusqu'où irait cette transformation mentale et embrasserait-elle finalement toute l'humanité ou seulement une fraction la plus avancée? Tout dépend de l'intention inhérente de l'évolution elle-même et de la volonté de l'intention cosmique ou transcendance qui guide les mouvements de l'univers. Nous avons supposé non seulement la descente du supramental sur la Terre, mais son incarnation dans une race supramentale, avec toutes les conséquences naturelles qui en résultent, et un nouveau fonctionnement général au sein duquel l'humanité nouvelle trouverait son développement complet et à sa place assurée dans l'ordre nouveau. Il est clair que tout cela doit être le résultat de l'évolution déjà en train de s'opérer sur la Terre. Une évolution qui s'étendrait très au-delà de ses limites actuelles et passerait dans un mouvement radical nouveau, gouverné par un principe nouveau, où le mental et l'homme seraient des éléments subordonnés, le mental n'étant plus l'accomplissement suprême, ni l'homme la tête ou le chef. L'évolution dont nous sommes témoins autour de nous en ce moment ne ressemble guère à tout cela, et nous pourrions dire donne bien peu de signes d'une possibilité pareille si peu de signes que la raison, notre seul guide assuré pour le moment, n'a nul droit de se hasarder à y croire. La terre, cette terre que nous voyons, et sa vie profondément plongée dans l'ignorance, fondée sur l'inconscience, n'est pas bâtie pour pareil développement, ni capable de supporter un tel avènement. Sa matérialité et ses limitations la condamnent définitivement à rester l'habitat d'un ordre très inférieur. On peut arguer aussi que cet ordre inférieur doit exister une place quelque part, et même si le supramental n'est pas une simple spéculation gratuite, même si cette réalité concrète, ce supramental n'a nul besoin de s'incarner ici et n'a nulle place ici. Puisque le mental représente toute la gamme de connaissances loisibles à l'ignorance, il doit avoir son habitat quelque part et garder sur terre comme son habitat naturel servirait au mieux l'économie de la nature cosmique. Bien entendu, une philosophie matérialiste n'admettra aucune possibilité de vie divine dans la matière. Mais même une philosophie admettant l'âme ou l'esprit ou quelque terminus spirituel du mouvement évolutif ici-bas pourrait fort bien nier toute capacité de vie divine sur la terre. Une existence divine ne peut se réaliser qu'en quittant la terre et le corps. Même si l'existence cosmique n'est qu'une illusion, une maya, il n'en reste pas moins qu'un être divin ou un être complètement spirituel ne peut guère exister que dans un autre monde moins matériel, ou seulement en l'esprit pur. En tout cas, pour la raison humaine normale, les chances semblent peser lourdement contre toute matérialisation prochaine de quoi que ce soit de divin sur la terre. En outre, si l'on s'arrête au caractère actuel ou apparent de l'évolution telle que nous la présentent les sciences physiques, on peut soutenir que rien ne justifie l'espoir de quelque émergence d'un principe plus haut que le mental humain, ni d'autres races d'êtres surhumains dans le monde de la matière. Pour naître et pour agir, la conscience elle-même dépend de la matière et d'agents matériels. Une conscience de vérité infaillible comme celle que nous attribuons au supramental serait incompatible avec les conditions matérielles et doit être écartée comme une chimère. Fondamentalement, les sciences physiques considèrent l'évolution comme un développement des formes et des activités de la vie. Le développement d'une conscience plus large et plus capable est simplement le résultat secondaire du développement de la vie et des formes et non une donnée première ni une caractéristique essentielle, et ce développement ne peut pas passer par les limites fixées par l'origine matérielle du mental et de la vie. Certes, le mental s'est montré capable de toutes sortes de prouesses extraordinaires, mais qu'il puisse être indépendant des organes matériels et des conditions physiques ou capable d'acquérir quelques pouvoirs de connaissance directs et absolus sans passer par des moyens matériels dépasserait les conditions imposées par la nature. Par conséquent, passé un certain point, l'évolution de la conscience ne peut pas aller plus loin. Mais ce quelque chose de bien déterminé et d'indépendant que nous appelons une âme existait. Elle serait limitée par ses conditions naturelles ici-bas, dans un monde où la matière est la base, où la vie physique est la condition, et où le mental est l'instrument le plus haut que l'on puisse produire. Il n'est pas possible que la conscience puisse fonctionner indépendamment du corps, ni surpasser cette nature physique, vitale ou mentale. La nature elle-même fixe les limites de notre évolution ici-bas. On pourrait également suggérer que tant qu'un fait clairement reconnaissable auquel nous puissions donner le nom de supramental ne s'est pas manifesté d'une façon assez précise et complète, ou tant que le supramental n'est pas descendu et n'a pas pris possession de notre conscience terrestre, nous ne pouvons nullement être certains de son existence. Jusque-là, le mental tient lieu d'arbitre général et des systèmes de référence de toutes les connaissances. Or, il n'est pas capable d'une connaissance certaine et absolue. Il doit douter de tout, mettre tout à l'épreuve et en même temps tout accomplir, mais il n'a aucune garantie, ni de sa connaissance, ni de ses accomplissements. Incidemment, ceci confirme la nécessité d'un principe comme le supramental ou la conscience de vérité. Dans n'importe quel univers intelligible, car sans cela, il n'existe aucune issue, ni aucun but, ni pour la vie, ni pour la connaissance. Sans cela, la conscience est incapable de parvenir à son sens complet et à son aboutissement suprême. Elle finira dans une absurdité ou un fiasco. Devenir conscient de sa propre vérité et de toute la vérité, tel est le but même de son existence. Or, elle ne peut y parvenir tant qu'elle doit tendre vers la vérité, tendre vers une connaissance dans l'ignorance et par l'ignorance. Nécessairement, elle doit donner naissance ou parvenir d'elle-même à un pouvoir dont la nature même saura de connaître, de voir, de maîtriser indépendamment et de son propre chef. Ce que nous appelons le supramental, ceci admis, tout le reste devient intelligible. Mais tant que ce supramental n'est pas accompli, nous restons dans le doute et nous pouvons soutenir, même si l'on admet sa réalité, nous ne sommes nullement certains de son avènement et de son règne, tant que ce n'est pas un fait. Tous nos efforts pour y atteindre peuvent aboutir à un échec. Il ne suffit pas que le supramental soit effectivement là au-dessus de nous, ni que sa descente soit une possibilité ou une intention future de la nature. Nous n'avons aucune certitude de la réalité de cette descente tant qu'elle ne sera pas devenue un fait objectif dans notre être terrestre. La lumière a essayé souvent de descendre sur la terre, mais la lumière reste inaccomplie et incomplète. Même l'homme peut rejeter la lumière. Le monde est encore plein d'obscurité, et cet événement semble n'être guère plus une question de chance. Ce doute est jusqu'à un certain point justifié par les faits du passé et par les possibilités d'avenir qu'elle nous offre encore maintenant. Le pouvoir probant de ce doute disparaît aussitôt que l'on admet que le supramental, comme une partie logique de l'ordre de l'univers. Si l'évolution tend de la matière au supramental, elle doit également tendre à faire descendre le supramental dans la matière, et les conséquences sont et seront inévitables. Tout le malheur de cette incertitude vient de ce que nous regardons, que nous ne regardons pas la vérité totale du monde tel qu'il est, et que nous n'en tirons pas la conclusion juste jusqu'à ce qu'il doit être et ne peut manquer d'être. Sans doute, ostensiblement, ce monde est-il fondé sur la matière, mais l'esprit est son sommet et l'ascension vers l'esprit est nécessairement son but, c'est la justification de son existence et l'indice de son sens, le signe de sa destination. Mais la conclusion naturelle que nous devons tirer de la suprématie de l'esprit et de ce sommet d'existence est obscurcie par une conception fausse ou imparfaite de la spiritualité, échafaudée par l'intelligence dans son ignorance et surtout par sa trop grande. Alors, je répète la conclusion naturelle que nous devrions tirer de la suprématie de l'esprit et de ce sommet d'existence est obscurcie par une conception fausse ou imparfaite de la spiritualité, échafaudée par l'intelligence dans son ignorance et surtout par sa trop grande hâte à se saisir d'un seul côté de la connaissance. On a conçu l'esprit non comme quelque chose qui embrasse tout et qui est l'essence secrète de notre être. C'est comme quelque chose qui nous regarde seulement de ses hauteurs et nous retourne du reste et nous détourne du reste de l'existence pour nous attirer seulement vers ses sommets. Alors je me permets de répéter parce que c'est très important pour tout le monde, y compris pour Ganga Lakshmi. On a conçu l'esprit non seulement comme quelque chose qui embrasse tout, qui est l'essence secrète de notre être, mais comme quelque chose qui nous regarde seulement de ses hauteurs et nous détourne du reste de l'existence pour nous attirer seulement vers les sommets. Ainsi, nous sommes parvenus à l'idée que notre être cosmique et individuel était une grande illusion, et que de le quitter, d'anéantir l'individu et le cosmos à la fois dans notre conscience, était pour nous le seul espoir, la seule délivrance. Ou encore, nous avons échafaudé l'idée sur Terre qui est un monde d'ignorance, de souffrance, d'épreuve, et que notre seul avenir était de nous enfuir dans les cieux au-delà. Il n'y a aucun avenir divin pour nous ici-bas, aucun accomplissement possible sur la terre et dans un corps, fût-ce par l'évolution la plus poussée qui soit, aucune transformation victorieuse, aucun but suprême à mettre en œuvre dans l'existence terrestre. Mais si le supramental existe, s'il descend, s'il devient le principe qui gouverne, tout ce qui paraît impossible au mental devient non seulement possible, mais inévitable. Si nous regardons attentivement, nous verrons que le mental et la vie, à leur sommet, tendent vers une perfection propre, tendent vers quelques accomplissements divins, tendent vers leur propre absolu. C'est cet accomplissement absolu et non quelque état au-delà et ailleurs, qui est le vrai signe, le sens de cette constante évolution, de ce labeur des naissances et des renaissances continuelles, et de cette ascension spirale de la nature. Mais c'est seulement par la descente du supramental. Et quand le mental et la vie auront trouvé leur accomplissement en se dépassant eux-mêmes, que cette intention secrète au fond des choses, ce sens caché de l'esprit et de la nature pourra devenir absolument manifeste et réalisable dans son intégralité. Alors, je vais jusqu'au bout de ce titre. Tel est l'aspect évolutif du supramental et tel est son sens. Mais à vrai dire, ce principe éternel qu'est le supramental existe d'une façon voilée. Au sein de cet univers matériel, c'est le support secret de toute la création. C'est ce qui rend possible et infaillible l'émergence de la conscience dans un monde apparemment inconscient et ce qui contraint la nature à grimper vers la suprême réalité. En fait, c'est un plan d'existence qui est déjà là et qui a toujours été là. C'est lui le lien entre l'esprit et la matière. C'est lui, par sa vérité, par sa présence, garde le sens, le but de l'univers et qui les rend inévitables. Alors voilà, aujourd'hui je termine le supramental dans l'évolution de Sri Aurobindo, la manifestation supramentale sur la Terre. Je remercie infiniment Sri Aurobindo de m'avoir permis, à travers cette lecture, de découvrir les secrets de ce que le supramental nous prépare. Merci, cher Aurobindo. Merci, douce mère.